Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, la peur de la violence menace la reprise. La promesse d'un frère pour la petite. Et le monstre veut sortir. Bonne écoute.
La peur de la violence menace la reprise. Un texte de Henri Wallet Vézina, paru le 24 avril 2023 dans la presse. Hausse de la présence des inspecteurs, peine plus lourde, hausse du financement. L'Association canadienne du transport urbain, ACTU, publie une série de recommandations pour assurer plus de sécurité dans les réseaux de transport collectif devant un nombre croissant d'incidents de violence à travers le pays. Aucune solution unique ne peut résoudre seul le problème complexe de la violence dans les transports collectifs. Nous devons donc réunir experts et intervenants de différents domaines, a fait valoir le président et directeur général de l'ACTU, Marco D'Angelo, demandant une réunion d'urgence avec les gouvernements provinciaux et fédéraux pour discuter des causes profondes du phénomène. Un groupe de travail mis sur pied par l'association travaillait sur des recommandations depuis juin 2022. Dans son rapport, ce groupe affirme que la peur de la violence menace de faire dérailler la reprise que les agences de transport et les municipalités y espéraient au moment où l'achalandage du transport collectif stagne toujours autour de 73% du niveau pré-pandémique au Canada. Depuis le début du mois de janvier, de nombreux événements violents se sont produits dans le réseau de la Toronto Transit Commission, TTC, mais aussi en Colombie-Britannique, où le syndicat des chauffeurs de West Vancouver a réclamé récemment un renforcement des mesures. À Montréal, la presse rapportait aussi vendredi dernier que la situation inquiète des constables et des chauffeurs de bus. La Société de transport de Montréal, STM, travaille déjà sur un plan de sécurité renforcé. Ce qui se passe à Toronto, ça pourrait se produire ici. On entend de plus en plus d'histoires de violence partout au Canada et ici. On est toujours un peu plus craintif quand on se lève le matin pour venir faire notre boulot, a illustré Pino Tagliaferri du syndicat des chauffeurs d'autobus de la STM. Règlement plus strict. Face à cela, l'ACTU recommande notamment d'investir davantage dans la création de postes en sûreté et en sécurité pour faire appliquer la loi en transport collectif. On évoque également des règlements plus stricts afin que les constables et la police aient la capacité de freiner les comportements dangereux. Les gouvernements provinciaux devraient ensuite fournir aux agences de transport du personnel de sensibilisation dédié à la santé mentale. Ottawa, de son côté, est appelé à renforcer les peines pour voies de fait contre l'ensemble du personnel du transport collectif, en incluant tous les travailleurs et pas seulement les opérateurs à l'article 269.01 du Code criminel portant sur les lésions corporelles. L'association réitère au passage que le transport collectif ne peut pas être une solution à l'itinérance qui est en hausse dans plusieurs grandes villes canadiennes. Aux yeux de M. D'Angelo, il faudrait donc que les gouvernements provinciaux financent davantage l'accès et l'admission de nuit aux services sociaux, aux centres de réchauffement et de refroidissement, afin que les personnes ayant besoin d'aide évitent de s'abriter dans le transport collectif. Parce que la consommation de substances n'a pas sa place dans les réseaux de transport collectif, l'organisme suggère de s'attaquer au problème de la toxicomanie en améliorant les programmes de soutien, l'application de la loi et en détournant les activités vers des zones sanctionnées. En pleine crise du financement sur le transport collectif, l'actu ne cache pas non plus qu'un financement approprié ferait la différence. Toutes les agences de transport devraient par ailleurs explorer des partenariats avec des services en santé mentale, en positionnant des intervenants de proximité dans le réseau afin d'aider le personnel. C'était « La peur de la violence menace la reprise », un texte de Henri Wallet Vézina, paru le 24 avril 2023 dans la presse.
La promesse d'un frère pour la petite. Une chronique d'Isabelle Légaré, parue le 24 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. À la maison, sans être tabou, le sujet n'était pas vraiment abordé. C'était comme ça à l'époque. On n'en parlait pas ou c'était fait de façon détournée. Jean-François Morin comprenait toutefois ce à quoi sa mère faisait allusion lorsqu'elle disait à ses quatre enfants réunis à l'occasion d'un repas en famille « Le jour où je ne serai plus là, la petite ne sera pas capable. » Il se doutait bien qu'en faisant cette réflexion, la dame espérait secrètement que quelqu'un réagisse autour de la table. Jean-François ne faisait pas semblant de n'avoir rien entendu. Tout naturellement, il s'empressait de la rassurer. « Maman, ne vous cassez pas la tête avec ça. Je vais en prendre soin. » C'est vrai que Marie-Christine n'est pas très grande. Mais ce n'est pas pour cela que ses parents l'ont toujours appelée la petite, même lorsqu'elle est devenue une adulte. La femme au cœur d'enfant est la plus jeune de la progéniture de Lucille Baumier et de Dionis Morin, à qui leur seul fils a fait cette promesse au moment de les accompagner successivement jusqu'à leur dernier souffle. Il pouvait compter sur lui pour s'occuper de Marie-Christine. Cette histoire n'est pas un conte de Noël, mais le portrait d'un frère, d'une sœur et d'une belle-sœur qui incarne la générosité du cœur 12 mois par année. Marie-Christine Morin laisse échapper un rire timide lorsque je lui demande son âge. Elle a 58 ans. Tout le monde me dit que ça ne paraît pas. Récemment, Marie-Christine a emménagé dans son premier appartement qu'elle a décoré à son image. L'endroit est sympathique, accueillant et chaleureux, avec, sur le mur d'entrée, une photo encadrée de ses parents, puis, sur la porte du frigo, celle de son frère et de sa belle-sœur. Tout le monde est là, et il ne pourrait en être autrement. Ces gens sont au centre de son existence. Avant de franchir cette importante étape qui consiste à avoir son propre chez-soi, la femme ayant une déficience intellectuelle, avait toujours vécu avec sa mère et son père. Après leur décès, c'est Jean-François et sa conjointe, Josée Saint-Pierre, qui lui ont ouvert leurs portes et leurs bras. Fidèle à la promesse faite à ses parents, son grand frère continue de veiller sur elle avec amour et loyauté. Quand j'étais petite, avant mes 2 ans, je suis grimpée et je suis tombée tête première, m'explique Marie-Christine lorsque je lui demande de me parler de ce qui la rend différente des autres membres de sa famille. Jean-François me sourit avant d'apporter cette nuance. Ce n'est pas la cause majeure. Marie-Christine est une enfant prématurée. Il y avait déjà une déficience à sa naissance. Elle l'écoute attentivement avant d'ajouter, le ton taquin, « Une chance que j'ai un frère, j'en ai juste un. » Et à ses côtés, cette petite sœur prend son envol. Lucille et Dionys aimaient profondément Marie-Christine, autant que leurs 3 autres enfants. Mais si on recule de près de 60 ans en arrière, la société ne favorisait pas l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le couple évitait de parler de l'état de leur fille. Lorsque des visiteurs se présentaient chez les Morand, on demandait à Marie-Christine de se faire discrète, craignant qu'elle puisse les déranger. Pour la génération de mes parents, avoir un enfant différent, c'était un peu comme une honte. Il se sentait coupable, rappelle Jean-François, qui n'est surtout pas en train de les juger. Lucille et Dionys s'étaient laissés à eux-mêmes, sans véritable soutien pour aider leur fille à s'épanouir. L'inclusion était un concept encore abstrait au milieu des années 60. Les gens avec une déficience intellectuelle étaient peu encouragés à prendre leur place. La stigmatisation était davantage leur réalité. Avant, il n'y avait pas les services nécessaires pour s'occuper d'eux. Aujourd'hui, on les rencontre un peu partout, sur des plateaux de travail et dans les commerces, donne en exemple Jean-François Morand, qui se réjouit de cette ouverture à leur égard. Le frère de Marie-Christine a toujours été un grand sportif, plus souvent sur un terrain de jeu qu'à la maison. Dès l'âge de 17 ans, celui qui s'est fait connaître sur un parcours de golf et sur la glace de curling a quitté le foyer familial pour poursuivre ses études. « J'ai appris très vite à me débrouiller », reconnaît le directeur général du club de golf Sainte-Flore à Shawinigan. Poursuivons avec la lecture de « La promesse d'un frère pour la petite », une chronique d'Isabelle Légaré parue le 24 décembre 2022 dans le Nouvelliste. Jean-François n'a pas eu la même jeunesse que sa sœur, qui a fréquenté des classes spécialisées jusqu'au début de l'adolescence, avant de rester à la maison avec sa mère, qui est devenue sa meilleure amie. Elles étaient très proches, toujours ensemble, ajoute-t-il avec affection pour les 2 femmes. Mère et fille jouaient aux cartes, allaient marcher dans les rues du quartier, faisaient l'épicerie et le ménage ensemble, regardaient leurs émissions de télé préférées. Lorsque Lucille est décédée en 2010, sa fille a continué d'habiter au domicile familial. Et puis, comment ça va avec Marie-Christine? Demandait Jean-François chaque fois qu'il voyait son père. « Mon meilleur chum », souligne-t-il. « Elle est à la maison, on s'arrange bien », lui répondait Dionys. Comme Lucille, il savait que son fils allait tenir parole le jour venu. L'homme est décédé en 2014, 4 ans après son épouse. Comme promis à ses parents de leur vivant, Jean-François a accueilli Marie-Christine sous son toit. Pour son grand frère, il n'était pas question de la placer dans une autre famille que la sienne. « J'ai une sœur dont je vais prendre soin un jour. C'est ce que Jean-François Morin avait dit à José Saint-Pierre au moment de devenir un couple, il y a 13 ans. La femme aurait pu tourner les talons face à cette importante responsabilité, mais les deux amoureux étaient faits pour se rencontrer. Pour elle aussi, c'était l'évidence même que sa nouvelle belle-sœur occupait déjà une place essentielle dans sa vie. Cette ouverture à l'autre était la suite logique de sa relation avec son ancien voisin, un homme ayant une déficience intellectuelle et dont José avait été la gardienne lorsqu'il était un enfant. Jean-François avait promis à son père qu'il prendrait soin de Marie-Christine. « Je lui ai dit, go, on l'amène avec nous. » Nous nous sommes préparés en allant chercher de l'aide, raconte José, qui a développé une grande complicité avec sa belle-sœur, qui l'aime comme une deuxième mère. Tout un chacun a dû s'adapter. Jean-François et José avaient leur travail, en plus d'être des bénévoles très engagés dans leur communauté. Contrairement à Lucille, ils ne pouvaient pas rester en permanence auprès de Marie-Christine qui, à l'aube de la cinquantaine, n'avait jamais vraiment fréquenté des organismes œuvrant auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle. Accompagnés d'une intervenante, Jean-François et José ont entrepris des démarches pour qu'elle puisse intégrer l'école des adultes, un plateau de travail et diverses activités visant à développer son plein potentiel. On ne voulait pas que Marie-Christine vive dans la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mentionne Jean-François avec fierté pour sa sœur, qui a surmonté ses appréhensions pour sortir graduellement de sa zone de confort. Elle a habité avec son frère et sa belle-sœur pendant un peu plus de 7 ans, jusqu'à tout récemment. Depuis quelques mois, Marie-Christine a une nouvelle clé en main, une vraie qu'on insère dans une serrure avant d'ouvrir la porte sur d'infinies possibilités. Son frère et sa belle-sœur ne sont pas étrangers à cette autonomie qui s'offre à elle. Jean-François Morin et José Saint-Pierre sont au nombre des parents d'adultes qui ont travaillé fort ces dernières années pour mettre sur pied le projet d'appartement supervisé « J'ai mon appart » à Shawinigan. À 58 ans, Marie-Christine est la doyenne des locataires et l'une des plus actives. Elle prend l'autobus toute seule pour aller où bon lui semble, sort avec des amis, est une employée appréciée à son plateau de travail, poursuit avec ténacité ses apprentissages à l'école, est une redoutable joueuse de quilles aux Olympiques spéciaux. Marie-Christine découvre le monde. Elle est heureuse comme c'est pas possible, constatent Jean-François et José avec ravissement. Lucille et Dionys peuvent reposer en paix. La petite a un avenir rempli de promesses. C'était « La promesse d'un frère pour la petite », une chronique d'Isabelle Légaré, paru le 24 décembre 2022 dans Le Nouvelliste.
Le monstre veut sortir. un texte de Patrick Lagacé paru le 24 avril 2023 dans la presse. En lisant ma presse, encore groggy par une nuit de sommeil réparatrice, j'ai soudainement éprouvé une décharge d'énergie pas possible. Je me suis demandé si quelqu'un avait glissé du Red Bull dans mon café ou du napalm. J'ai rapidement découvert la cause de ce choc. C'était la nouvelle que je lisais à cet instant précis, celle sur le père de la fillette de Granby qui plaide pour sa libération conditionnelle après un peu plus d'une année de prison. Le père, qu'on ne peut identifier en vertu des lois sur la protection de la jeunesse qui protège l'identité de sa fille défunte, a eu un comportement exemplaire en prison. Il a été condamné à 4 ans de prison en janvier 2022 après avoir plaidé coupable à une accusation réduite de séquestration. Pour avoir affamé, battu, séquestré et ultimement emballé sa fille dans un sarcophage de ruban gommé avec l'assistance enthousiaste de sa conjointe, ce qui a mené à sa mort, devinez ce que le père plaide aujourd'hui devant la commission des libérations conditionnelles pour expliquer sa participation à la spirale de brutalité qui a conduit au meurtre de sa fille. Tenez-vous bien, je n'ai pas réfléchi. Ce gars-là est une authentique crapule depuis toujours. Il est là, contrit, devant les commissaires, se pose en homme réformé. Il travaille sur lui. Il a appris. Trouvez-moi des Kleenex, je vais pleurer. La mère du père tortionnaire s'oppose à ce que son fils soit remis en liberté sitôt. Peut-on l'écouter, la grand-mère? Pour une fois, je veux dire. On va récapituler pour ceux qui auraient oublié quelques détails cruciaux de la saga de la petite fille de Granby afin de comprendre comment le système a aidé le père à continuer à mal s'occuper de sa fille, avec des conséquences dramatiques. La petite est née de parents inaptes. Enceinte, sa mère biologique fessait sur son propre ventre. Légèrement déficiente intellectuelle, plombée par de graves problèmes de santé mentale, consommation. Elle a perdu la garde de sa fille dès la naissance. Pour que le bébé soit confié à son père. Un autre beau spécimen d'inaptitude, toujours gelé. Et qui, tenez-vous bien encore, refusait de se lever la nuit quand le poupon avait faim. Son raisonnement, elle va devoir apprendre que la nuit, c'est fait pour dormir. C'est la mère du père qui a fait un signalement à la DPJ. Elle héritera de la petite, en vertu de placements temporaires de 6 mois, renouvelables. De 2012 à 2015, l'enfant habitera chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère, la petite était bien. Elle habitait un foyer structuré. Elle était aimée. Elle fonctionnait bien. Il n'y avait aucune raison de la déraciner pour la sortir de là. Le système a trouvé une raison. La loi sur la protection de la jeunesse affirmait la primauté des liens du sang. Résultat, le système donnait toutes les chances aux parents, même les plus inaptes, de se racheter. Même des déchets comme le père de la fillette de Granby. Le père a lancé des procédures pour avoir la garde de sa fille. Il s'était posé en homme réformé. Il avait travaillé sur lui. Il avait appris. Je vous résume le billet du système envers lui. Chaque petit effort était accueilli par les intervenantes de la DPJ et par les juges comme un exploit incroyable. C'est tout juste si ces gens-là ne faisaient pas la vague pour féliciter le père quand il prenait une douche. Une intervenante s'est même émue de ce que le père avait cessé de consommer de la dope depuis 3 semaines. Pour la grand-mère, c'était tout le contraire. Le système traitait ses objections au retour du père qu'elle connaissait si bien dans la vie de sa petite fille comme une manifestation absolument incompréhensible de méchanceté paranoïaque face à son fils réformé. Je cite une intervenante qui plaidait pour qu'on arrache la petite à son milieu aimant pour la transplanter dans un autre milieu, un milieu qui allait la tuer, Le système d'alarme de Madame est défaillant. Elle voit des dangers partout. On ne l'a pas écoutée, la grand-mère, et la fillette en est morte. Et pour son rôle dans la mort de sa propre fille, le père s'en est tiré, parce qu'il a plaidé coupable à des accusations très réduites, avec 4 ans de prison, avec seulement 4 ans de prison. Et il a le droit de demander une libération conditionnelle après 1 an, et dépoussière, se présentant comme un homme changé, réformé. L'aura-t-il sa libération? Réponse dans 2 semaines. Mais je rappelle qu'il a déjà joué ce rôle-là, il n'y a pas 10 ans, celui du gars qui n'est plus la vidange qu'il était au tribunal de la jeunesse. Ça avait merveilleusement fonctionné. On le comprend de remettre le costume de l'homme contrit qui a appris de ses erreurs devant les commissaires aux libérations conditionnelles. Qu'il soit libéré ou non, dans 2 semaines. Pensez à ça. 4 ans de prison pour avoir joué un rôle central dans la mort de sa fille. Juste 4 ans. Me semble que le système fait de bien sinistres calculs qui effacent parfois la valeur des vies arrachées. C'était « Le monstre veut sortir ». Un texte de Patrick Lagacé, paru le 24 avril 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizévoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, Diane Métaillé et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.